Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On a appelé ça les pieds sur scène avec un super jeu de mots. C'est l'idée de raconter sur scène des histoires qui sont arrivées à des personnes anonymes, des vrais gens, des personnes de la société civile, enfin celles qu'on entend habituellement dans les pieds sur terre. Mais cette fois, elles sont là en vrai et racontent ce qu'elles ont vécu devant un public avec qui elles partagent cette expérience. Cette session-là s'est passée le 16 mars au Théâtre de la Concorde à Paris. Il y avait un thème qui était « Ce qui s'est passé pour vous pendant le Covid, en quoi cette période vous a changé, bouleversé, ce qui vous est arrivé de surprenant ». Sur scène, il y avait 9 personnes qui ont raconté 9 histoires extraordinaires que vous pouvez voir et entendre dès à présent en intégralité sur la page des Pieds sur Terre et sur YouTube. Aujourd'hui, on commence par en écouter trois d'entre elles, qui s'appellent Anna Yacoma, Mia Mort et Laurence Velli. Elles vont raconter comment ça s'est passé pour elles, cette période inouïe, dont on ne s'est toujours pas remis, où on s'est mis à dire tout un tas de mots nouveaux, surgis de nulle part, comme écouvillon, cluster, cas contact, patient zéro, comorbidité ou distanciation sociale. Une période où on s'est mis à faire des choses surréalistes qu'on n'avait jamais faites et où on ne se reconnaissait plus. Au Théâtre de la Concorde, les voici donc tout de suite dans les pieds sur scène et sur terre.
J'ai grandi dans une petite ville de Charente, à 1 heure de Poitiers. Cette ville, c'est 9000 habitants, des champs de colza, une laiterie industrielle et une conserverie de champignons où a longtemps travaillé mon père. Aux dernières élections législatives, le RN a fait 40%. Ma mère m'a dit qu'on commençait à avoir chaud aux fesses. À l'origine, l'idée de venir s'installer en Charente pour mes parents, c'était d'avoir une meilleure qualité de vie. Quand j'avais 4 ans, on a quitté la périphérie de Bordeaux, où ils s'étaient installés à leur arrivée de Centrafrique. Mon père a une licence de sciences économiques, mais en France, il a dû faire de petits boulots, la plonge, de la distribution de journaux, puis il s'est fait embaucher à l'usine de champignons. On avait une maison et un jardin. Ma mère travaillait comme agent d'entretien dans le périscolaire. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette ville paumée, à part la piscine municipale et zonée à l'hyper-U. Tu fais le tour en 2 minutes. Mais je ne me posais pas de questions. C'était ma normalité. Heureusement, j'ai adoré l'école. J'étais du genre toujours au premier rang, à fond la caisse, déléguée de classe chaque année, activité théâtre et félicitations tous les trimestres. Un peu faillotte, tout le temps le doigt levé à proposer des exposés facultatifs. À partir du CM1, j'ai voulu devenir rédactrice en chef d'un grand journal, comme Lois Lane, la collègue de Clark Kent dans Les Aventures de Superman. J'ai été la première de ma famille à aller en général. En première, une prof est venue de Poitiers, nous présentait les classes prépa Hippocagne. J'avais jamais entendu parler du concours de l'ENS et de la rue d'Ulm, mais quand elle a dit que c'était ce qu'il y avait de plus difficile, ça m'a tout de suite attirée. Je voulais prouver de quoi j'étais capable. À partir de là, j'ai bossé encore plus comme une dingue pour mon dossier Parcoursup. Et en septembre 2019, j'ai été admise en Hippocagne, dans le meilleur lycée public de Bordeaux. Je savais que je serais la seule noire, à venir d'un bled paumé en plus. Ça me faisait peur, mais j'avais quand même très envie d'y aller. Bordeaux, pour moi, c'était New York City. Tout était possible. Ma vie allait vraiment commencer. Le jeudi soir où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires, j'étais donc à l'internat, en train de m'arracher les cheveux sur une dissertation de philosophie sur Hannah Arendt. J'ai failli tomber de ma chaise. Ouran, le cluster près de Mulhouse, les premiers morts, ça m'était passé au-dessus. Ça faisait 7 mois que j'étais sous cloche, en mode commando, à ne faire que travailler. En prépa, on dit qu'on est dans les tranchées, comme des poilus, à se prendre des obus à chaque devoir sur table. J'essayais de prendre le rythme, de choper les codes et la méthode. Je bûchais le soir jusqu'à 1h du matin. Et avant de m'endormir, je m'avalais les textes que ma prof de philo, Madame Briscard, m'avait conseillé pour rattraper mon niveau. Parce qu'avec les « je bouquine » que j'avais emprunté toute mon enfance à la bibliothèque municipale, il me manquait une bonne couche de culture légitime pour entrer dans le moule. Donc, je lisais tout ce que Madame Briscard me disait. Voltaire et Rousseau, le contrat social, le discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes. Cette Madame Riscard passait son temps à nous dire qu'on était tous nuls. Mais j'adorais ça. Son côté, le diable s'habille en Prada. Ses avis définitifs. Le charisme fou qu'elle dégageait. Cette espèce d'opulence hyper exotique pour moi. Elle sentait bon. Elle portait un carré Hermès différent pour chaque jour de la semaine. Elle m'a mis des tôles à mes dissertations pendant tout le premier trimestre. Et puis fin février, elle m'a fait passer une colle. Une épreuve orale sur Hobbes et le Léviathan. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit avec son air supérieur. Mademoiselle Yakoma, vous avez beaucoup progressé depuis la rentrée. Je sens un élan vers l'avant. Vous êtes en train de donner quelque chose. Donc quand il a fallu 2 semaines plus tard rentrer me confiner dans ma cambrousse, cet élan vers l'avant, j'avais l'impression qu'on me le coupait en plein vol. À l'époque, mon père était malade. Il avait fait un AVC. Il était en soins de suite à l'hôpital. Je me suis retrouvée à la maison avec mes frères et sœurs et ma mère. Le dernier avait 1 an à peine. Tout de suite, en arrivant, j'ai compris que ça allait être horrible. Que je ne voulais plus vivre ici. Je voulais être ailleurs. Je voulais travailler. Les cours sur Zoom se sont mis en place. Mais comme je n'ai pas de chambre à moi et nulle part dans la maison pour m'isoler, je n'arrivais pas à me concentrer. Au bout de 2 semaines de ce régime à passer du lit à l'ordi, puis de l'ordi au lit, j'ai commencé à déprimer sévère. Sur l'écran, je voyais mes camarades d'Hippocagne, certains dans leur villa du Cap Ferret. Je pouvais aussi entreapercevoir la maison de ma prof de philo en visio, sa belle bibliothèque et de grands rideaux. J'avais du mal à me lever le matin. Je boulotais des michocos et des quesadillas au fromage. Ma mère voulait que je l'aide à s'occuper de la maison. L'ambiance était hyper tendue. Elle ne comprenait pas. Mes frères et sœurs se demandaient pour qui je me prenais. Je ne pouvais plus voir en peinture ce trou perdu. Je trouvais soudain tout gris, tout moche, tout vide. Quand George Floyd a été tué à Minneapolis en mai 2020, j'ai suivi le mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. J'étais à fond, mais je voyais aussi mes vieux potes du village reposter des vidéos de Jean-Marie Bigard à la gloire de la police. J'ai fait le tri en les virant de mes contacts. Il restait plus grand monde. J'ai honte de le dire aujourd'hui, mais ma famille aussi me sortait par les yeux. Je me suis mise à les trouver bruyants, vulgaires. Je supportais plus rien. Je me réveillais le matin en pleurant, avec une sensation de fatigue extrême et de lourdeur physique. Le mot est fort, mais je dirais que c'était du désespoir. Je me suis renfermée. Je leur parlais plus. Pendant ce temps, mes notes dévissaient. Peu à peu, j'ai senti que mon rêve s'effondrait. J'étais montée dans un avion qui restait bloqué sur le tarmac. Comme si le Covid m'avait remise à ma place. Le mois de juin est arrivé, je suis retournée à l'internat. Les profs m'ont laissé passer en cagne malgré mes mauvaises notes. Mais l'année scolaire qui a suivi, ça a été le festival. Les cours masqués, les confinements, les déconfinements successifs. Il fallait quitter l'internat dès qu'on était qu'à contact. J'ai passé le premier trimestre en dents de scie, sans arriver à reprendre le rythme. Et puis, en janvier 2021, mon père est mort du Covid à l'hôpital. Il avait 58 ans. Et là, j'ai compris que c'était vraiment fini. Je suis rentrée chez moi pendant plusieurs semaines pour être aux côtés de ma mère et de mes frères et sœurs. Je suis devenue incapable de faire des projets, de penser à l'avenir. Parce qu'il pouvait toujours y avoir une pandémie pour venir tout foutre en l'air sans qu'on s'y attende. Plus tard, je me suis inscrite à la fac. Finalement, j'ai obtenu un master d'histoire. La déchéance ultime aux yeux de Madame Briscard, sans doute. Mais pour ma famille, ça ne faisait pas de différence. Et au moins, j'ai arrêté de les regarder de haut.
Le carnet où j'écris 2-3 mots à propos de chaque client, pendant le confinement, il n'y a presque rien. Je vois juste le 16 mars, Will, beaux yeux, est revenu. Ensemble, Port-Jartel, Chantel, aux anges. Ensuite, il n'y a plus grand-chose, sauf tout début mai. Serge, la quarantaine, habitué, toujours sympa. une petite pâtisserie, Pipe, Levrette, a gardé son masque. Heureusement, je m'étais déclarée quelques années avant le Covid en micro-entreprise, en libéral non réglementé. Comme la plupart des travailleuses du sexe qui sont déclarées, la rubrique que je coche pour l'URSSAF, c'est « Autres services personnels ». On se retrouve avec les magnétiseurs, les promeneurs canins, les hypnothérapeutes, les babysitters et les personnes qui font du ménage chez les particuliers. Ce qui fait qu'au moment du confinement, j'ai bénéficié de l'aide de l'État, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Le plafond était de 1 500 € selon les revenus de l'année précédente. Et comme j'avais bien travaillé en 2019, j'ai eu le droit à ce maximum chaque mois. Donc j'étais bien. Je me suis pas trop sentie obligée de travailler. C'était pas trop la galère. Mais c'était pas le cas de la plupart de mes collègues non déclarés. Les travailleuses du sexe étaient les grandes oubliées de la crise, avec les SDF et toutes les personnes qui ont une vie marginale. Elles se sont retrouvées sans rien, alors que chaque année, des millions sont votés dans le budget de l'État pour nous sauver de la perdition. À l'époque, comme j'étais trésorière du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe en France, on s'est dit qu'on allait créer un fonds d'urgence. Au début, on a mis en ligne une cagnotte au nom du STRAS, mais on s'est fait virer quand ils ont vu le nom du syndicat, donc je l'ai faite en mon nom. Et ça a très bien marché. Il y a même un matin, je me suis réveillée, la cagnotte avait bondi de 18 000 €. Un don anonyme. C'était le client d'une collègue. En tout, on a récolté autour de 70 000 €. Mais pour les répartir et les reverser, ça a été un boulot de dingue. On avait prévu 150 € par personne. Il y a des gens qui peuvent mettre 18 000 € dans une cagnotte et d'autres qui font un mois de course avec 150 €. On avait mis en place un formulaire à remplir. Mais au bout d'un mois ou deux, on s'est rendu compte que les mêmes noms apparaissaient plusieurs fois. On trouvait ça bizarre. Il y avait un mec qui avait demandé 13 fois l'aide avec la même adresse IP et avec de fausses annonces. Il nous avait niqué, quoi. On était dégoûtés. Et moi, je me suis retrouvée dans une posture de contrôle d'aide sociale, comme ceux qui contrôlent le RSA ou je sais pas quoi. Et j'avais pas du tout envie d'avoir ce rôle-là dans ma vie. Mais fallait bien. On a touché environ 500 personnes et on a en plus reversé une partie à des associations de terrain. Ça me prenait 3 ou 4 heures par jour, mais je crois que ça a été utile. Après la deuxième et la troisième vague, quand ils ont rouvert certains commerces non essentiels, j'ai cessé d'être indemnisée. On était censé reprendre le travail tout en respectant la distanciation sociale. C'est là que ça s'est compliqué. Parce que quand on est pet-sitter, ça va. Mais quand on est travailleuse du sexe, respecter la distanciation sociale, c'était physiologiquement pas possible. Mais comme il y avait des personnes qui n'avaient pas peur d'attraper le Covid, j'ai repris peu à peu ma vie normale, enfin presque. Dans mon carnet, le 6 juin, par exemple, j'ai noté « Amir, rendez-vous dans le camp scout de Noyal-Châtillon. Malaisant. » C'est désinfecter le sexe et la bouche au gel hydroalcoolique. Je cite, pour le sida. Aujourd'hui, ça pourrait me faire rire, mais sur le moment, j'étais choquée. Vers la fin du Covid, j'ai déménagé. Je suis partie principalement pour vivre dans une grande ville, mais aussi parce que c'était devenu tendu avec ma mère. Elle n'a rien contre mon activité, mais déjà, pendant le confinement, elle est devenue parano. Elle portait un triple masque, désinfectait ses légumes qu'elle avait laissés en quarantaine pendant 2 jours et n'acceptait de me voir que dans sa tenue de cosmonaute et au portail. Elle s'était transformée en spécialiste du virus et m'abreuvait de recommandations. En fait, elle était sous perfusion de Facebook H24. Elle passait sa journée sur des groupes complotistes qu'elle alimentait et me partageait en message privé. Quand les vaccins et le pass sanitaire sont apparus, elle a complètement vrillé. Elle est passée de l'autre côté. Elle se vivait comme une résistante dans un camp retranché en lutte contre l'État liberticide. Et je devais absolument choisir de quel côté j'étais. Elle parlait d'apartheid, de ségrégation. On nous contrôle, c'est horrible, tu te rends compte, on n'est même plus libre de nos mouvements. Elle n'est pas allée jusqu'à dire qu'il y avait des puces 5G dans les vaccins, mais pas loin. Et j'en ai eu assez. Je suis donc partie vivre à Rennes, où j'ai créé une association qui s'appelle Les Pétrolettes. On fait des goûters, on parle de nos vies, on fait de la prévention. Le premier client qui apparaît à Rennes dans mon carnet porte encore la trace du Covid. Kevin, 28 ans, studette en bord de la rocade. Un peu chelou, dans le sens où il m'embrasse direct, sur la bouche, puis, à la fin du rendez-vous, il me dit qu'il flippe des maladies. À payer en carte. Car oui, ça vous étonne peut-être, mais comme je suis déclarée, je prends la carte. J'ai un terminal de paiement, et quand les clients sont inquiets et me demandent quel sera le libellé sur leur relevé bancaire, je leur dis qu'il y aura écrit, en lettres majuscules, « Je me suis tapé une pute ». Ça me fait rire à chaque fois de voir leur tête. À la fin, au total, pendant le Covid, j'aurais donc perçu de l'État la somme de 6 000 euros net d'aide exceptionnelle répartie sur 4 mois, sur laquelle je n'ai pour une fois pas payé d'impôts. Car même si notre profession est tout juste tolérée et nos clients pénalisés, nos impôts, eux, restent les bienvenus.
Le 16 mars 2020, quand le président Macron a annoncé au JT qu'il allait confiner la France, j'ai tout de suite su que j'étais partie pour une grande épopée familiale et domestique. Alors nous, on a très vite décidé qu'on allait se confiner chez nous, à Bagnolet, à côté de Paris. Nous, c'est ma famille. On est une famille recomposée, avec 4 enfants. Mon conjoint en avait 2 d'une première union, moi j'en avais 1, et ensemble, on a eu une petite fille. Au moment du confinement, cette petite fille, elle avait 1 an. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est qu'un enfant de 1 an. Ça marche à 4 pattes, très vite. Ça se cogne, ça tombe, et puis ça met des choses dans sa bouche. De la purée de carottes, une mouche morte ou un mégot. C'est pareil. Donc, c'est une surveillance constante. Alors moi, jusqu'au bout, j'ai prié pour que les crèches restent ouvertes. J'estimais que vraiment on pouvait tout fermer, les écoles, les magasins, les bureaux, mais pas les crèches. J'ai pas du tout été entendue. Donc le 17 mars 2020 a commencé pour moi une longue traversée du désert. Parce qu'en plus, il faut que je vous dise, moi je suis nulle en vie domestique. Dès que je dois couper un concombre ou ranger une poêle, je sais jamais où c'est, ou passer la serpillière, c'est comme si toute l'énergie que j'avais en moi s'évaporait pour me transformer en une sorte de bloc de feta. J'ai appris récemment que dans les startups, on appelle ça les low energy tasks. C'est celles qui vous pompent toute votre force vitale et que logiquement, vous devriez refiler à une IA. Alors malheureusement, il n'y a pas d'IA pour ça, mais j'ai un conjoint compréhensif et déconstruit, donc ça a fait le job. Alors évidemment, ce qui structurait ces jours sans fin, c'était les repas. 3 repas par jour, fois 6 personnes, fois 55 jours, on est sur 990 couverts. Moi, j'étais en charge plus spécifiquement des lave-vaisselles, à remplir, vider. C'était un peu mon rocher de Sisyphe à moi, le lave-vaisselle, j'en voyais pas la fin. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'entends le mot Covid, je pense pas virus, je pense pas soignant, je pense pas président de la République, je pense lave-vaisselle. Donc chacun ses représentations mentales. Hein. À ça s'ajoutaient les courses à faire et à désinfecter, les lessives à lancer, sécher, ranger, les couches de bébé à changer plusieurs fois par jour, les jeux de société à animer avec le sourire, les livres de l'âne trop à lire et puis à relire, et puis toutes ces centaines de petits cubes à empiler et à ramasser. Heureusement, du côté des ados, on était plus tranquilles parce qu'ils avaient développé une addiction lourde aux écrans. Je remercie Fortnite pour ça. Comme beaucoup de parents, j'ai passé pas mal de temps à me réfugier aux toilettes. Temps de tranquillité gagné, 10 minutes, ressenti 2. Et là, j'avais le loisir de scroller sur Instagram et puis de jalouser tranquillement tous ces gens qui écrivaient leurs grands romans, qui s'étaient mis à la poterie ou qui faisaient le chien tête en bas. Tous ceux qui faisaient leur pain, par contre, je les jalousais pas du tout. Moi, avec les enfants, pendant ce temps-là, j'ai testé la peinture sur assiette avec des feutres qui ne partent pas au lave-vaisselle. Et ça, je déconseille, c'est très moche. J'ai très vite su que dans le monde d'après, je ne serai pas peintre sur assiette. Au bout de quelques semaines, j'ai fait ce que ferait tout individu en bore-out doté d'une armoire à pharmacie, de l'automédication. J'ai pris ce que j'avais sous la main, en l'occurrence du tramadol. Je m'étais auto-autorisée à en prendre un tous les 3 jours. Et ben ça, c'était super. Le 3e jour, j'étais bien déconnectée de tout, flottante, zen, en acceptation. Et puis, au quotidien, j'ai fait comme vous tous, j'ai commencé à boire un peu trop. Comme on avait une petite terrasse et que c'était la dernière année où on pouvait avoir plus de 3 jours de soleil consécutif, le soir, entre deux lave-vaisselle, avec mon conjoint, on buvait l'apéro et puis on oubliait un peu cette vie absurde. Le 5 avril 2020, en début de soirée, l'air était doux. On s'est mis sur la terrasse, on a ouvert une bouteille de vin et on a mangé du saucisson en faisant attention à ce que la petite n'avale pas la peau. J'étais bien. Peut-être que les enfants avaient été cool. Peut-être que les lave-vaisselles m'avaient semblé moins remplies que d'habitude. Peut-être que c'était un jour de tramadol, je ne sais pas. On a couché la petite et puis on s'est connecté à un apéro visio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, on s'est tous mis à faire des apéros visio, comme une sorte de tentative de simuler la vraie vie. Sauf que contrairement à la vraie vie, on ne pouvait pas annuler au faux prétexte d'une babysitter malade. Donc on est allé à cet apéro visio et je me souviens que j'ai bien rigolé. Vers 22h, on a dû raccrocher un peu précipitamment parce qu'on avait un deuxième apéro visio. C'était les 40 ans d'une de mes meilleures amies et on aurait dû les fêter chez elle en Normandie, mais comme c'était pas possible, son mari avait organisé une petite fête virtuelle. En ligne, il y avait une 10aine de personnes et comme prévu, c'était pas dingue. Mais moi, ce soir-là, j'étais de bonne humeur, peut-être un peu saoule, et puis j'ai voulu trinquer. Et puis j'ai monté le volume de la musique, j'ai poussé les meubles et je me suis mise à danser. Et c'est à ce moment-là, assez rapidement, qu'il s'est passé une chose étonnante, une chose à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'arrive toujours pas vraiment à m'expliquer. J'ai enlevé mon t-shirt et pourtant il faisait pas spécialement chaud. Et puis j'ai retiré mon jean et puis mon soutien-gorge et tout. Donc je me suis mise complètement nue, en visio, devant tout le monde. Une précision quand même, je suis très pudique. À la plage, je n'enlève jamais le haut et mes amis m'ont jamais vu en culotte. Alors mon conjoint n'a pas du tout été choqué ni gêné par mon attitude et il s'est déshabillé lui aussi. Et donc on s'est retrouvés comme deux clampins nus à danser devant notre ordinateur. Il y a eu un flottement. Mais quelques minutes plus tard, de l'autre côté de l'écran, tout le monde était déshabillé. Mon amie, dont c'était l'anniversaire, était nue. Son mari était nu. Les invités étaient nus. Je me souviens que j'ai noté qu'une des convives était allée se changer pour se mettre en maillot de bain, pour rester dans le thème. Sur mon écran, je ne voyais plus aucun visage. Je voyais des seins qui tressautaient, des sexes qui tournaient et des fesses en gros plan. Et je ne savais pas ce qui appartenait à qui. Le mot a tourné qu'il se passait quelque chose dans cet apéro visio. Et très vite, les invités qui étaient partis sont revenus. Et passé l'instant de sidération, eux aussi se mettaient à poil. Et donc, comme le nombre de participants était limité, on a commencé à recevoir des messages de gens qui disaient « S'il vous plaît, acceptez-nous, on peut pas rentrer !» Comme si on avait créé une sorte de carré VIP du lâcher-prise, un gros FOMO des gens à poil. La soirée a continué comme ça pendant un bon moment, et puis vers 2 ou 3 heures du matin, on avait bien dansé dans une ambiance hyper bon enfant, et puis les gens sont allés se coucher petit à petit. Nous, avec mon conjoint, on est restés longtemps à danser dans le salon et je sais que quand on est allé au lit, on était assez fiers, très contents de nous et à moitié surpris de ce qu'on avait fait. Le lendemain matin, j'ai reçu des coups de fil de remerciement pour ce pétage de plomb général et les SMS furieux de ceux qui avaient loupé la soirée. Et j'ai aussi reçu quelques captures d'écran que malheureusement je ne peux pas diffuser ici pour des raisons que vous comprendrez. Le déconfinement est arrivé 36 jours après. Mais moi, j'ai eu la sensation que ce 5 avril 2020, j'avais déjà déconfiné quelque chose en moi. Quelque chose qui était bien tapis dans l'ombre de nos semaines d'enfermement et quelque chose qui disait la folie de ce qu'on avait traversé pendant cette période. I'd be as greedy as those men are, but I remain forlorn in the memory of what once was. Chasing a crossing from the way, our boy's a whippet, he's faster than anything. Remember the pride that we felt for the two of us made him ourselves. Human being, make my day. I'll tell your stories, kiss your face, and I pray.
C'était « Ça s'est passé comme ça », premier épisode de nos histoires autour de la période du Covid, racontée sur la scène du Théâtre de la Concorde, un événement préparé par Pauline Chanu, Delphine Saltel et Sonia Kronlund, et réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci aux équipes du Théâtre de la Concorde, à celles de Radio France et de France Culture, à l'APHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'Agence nationale de la recherche, à Inès Bouffartic, Sébastien, Florence Villard, Pauline Verdusier, et aux participantes du jour, Anna Yacoma, Mia Mor et Laurence Velli. Plus d'informations et surtout les vidéos de tous les intervenants, c'est sur la page des Pieds sur Terre et aussi sur YouTube. Attaché de production, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.